nous étudions la raison pour laquelle il y a eu une séparation entre Ishmael et Yitzhak. Je ne reviendrai pas sur les introductions qu'on a eues. Et j'espère que vous avez pris le temps de lire ce texte. Oui. Alors, avant cela, je vais vous donner un certain nombre de références à préparer en relation avec cette étude que nous allons avoir. Donc, ça y est. Et je vous avais demandé de lire par vous-même tous les chapitres concernant l'histoire des patriarches. Je sais que vous n'êtes pas suffisamment familier avec ces textes, vous aurez à les reprendre plusieurs fois. Mais dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas le temps de lire tout en classe. Par conséquent, lisez attentivement les chapitres que je vais vous indiquer, et en particulier sur le sujet suivant. Chaque fois que la Torah nous annonce une étape importante dans cette sélection d'identité dont je vous ai parlé entre les différentes lignées de la famille d'Abraham, il y a le récit d'un épisode qui se trouve être relié à cela. C'est le récit où le patriarche dit de sa femme qu'elle est sa sœur. Ce récit se trouve trois fois dans l'histoire des patriarches. C'est-à-dire, il n'y a pas une répétition pure et simple. Vous suivrez par vous-même, très en détail dans la lecture de ces textes, il y a à chaque fois un progrès dans le sens suivant. C'est d'abord lui qui demande à elle, d'abord c'est Abraham et Sarah deux fois, et Yitzhak et Rivka une fois. C'est Abraham qui demande à Sarah qu'elle dise qu'il est son frère, ensuite qu'elle dise qu'elle est sa sœur, et donc il y a une relation de fraternité entre le mari et la femme qui se cherchent, et elle ne réussit qu'à la troisième fois entre Yitzhak et Rebecca. Vous allez lire ces trois textes-là, mais je vais vous donner les références, je fais allusion, c'est pas la première fois d'ailleurs que je fais allusion, par rapport au texte que nous allons étudier aujourd'hui. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un progrès de moralité dans l'identité du patriarche, alors il y a la nécessité de séparer des lignées qui ne sont pas encore à ce niveau-là, ou qui sont, disons, qui sont disqualifiés par rapport à ce niveau-là. Vous vous rappelez que depuis le début de l'année, nous avons étudié un principe de lecture à partir du premier récit que la Torah nous donne concernant la relation des frères entre eux, Caïn et Abel, et nous avons vu que l'objectif, c'est d'arriver à reconstruire une relation de fraternité. Alors, on s'aperçoit que il y a une dimension du problème qui est importante et qui sert de révélateur des différentes étapes de développement de ce progrès moral dans la relation de fraternité. C'est-à-dire que les frères doivent arriver à réussir la relation d'altérité entre eux, mais on voit que dans le récit biblique s'entremêle un autre thème qui lui est relié, c'est la relation de l'époux à l'épouse. Et plus il y a progrès dans la relation entre l'époux et l'épouse, plus il y a progrès dans la relation des frères entre eux. Je vous dirai ça de différentes manières, parce qu'on n'est pas habitué à ces thèmes-là, ce sont des thèmes du Midrash, et ça vous permettra à lire la cohérence des récits bibliques. C'est-à-dire, le récit fondamental que nous suivons, c'est la relation des frères entre eux. On voit que cela échoue entre Caïn et Abel. Ça en était au début de l'année. On a vu les différents sursis qu'il y avait dans ce problème de la relation des frères, jusqu'à l'échec qui a été la cause immédiate du déluge, et ensuite ce récit est repris à partir d'Abraham. C'est bien clair, je schématise. Et alors, on s'aperçoit que cette relation, de la relation à autrui, comme je vous le dis en français, la relation de fraternité, et vous noterez qu'en hébreu, le mot de « ach » qui veut dire frère, est le début du mot de aher, qui signifie l'autre. Ce n'est pas la même racine, faites attention. Comment il y a une convergence entre le Midrash et le livre. Et quel est le substantif de la racine d'où vient le mot aher, l'autre? Quel est le substantif? Je dis ça pour ceux qui savent déjà. Okay. Ça veut pas plus fort. La prochaine fois, je te le dis. Acharayut, ça veut dire quoi?
Responsabilité.
Responsabilité. Alors, essayez de réfléchir d'abord. essaie d'expliquer la relation entre Aharayut, responsabilité, et Acher, l'autre. D'après les mots hébreux, hein. D'après les mots hébreux.
Ben, Aharayut, c'est comprendre.
Commence pas à me faire de la philosophie. J'essaie de réfléchir sur les mots hébreux. Aharayut, ça veut dire quoi en hébreu? Qui a traduit responsabilité, c'est exact. Mais pourquoi le mot de Aharayut signifie responsabilité? Ça vient d'où, Aharayut? Non, vous n'allez pas comprendre ma question. Laissez-moi aller. C'est justement ma question. Il y a une ressemblance entre Aharayut, vous suivez la lecture? Aharayut, responsabilité, et Aher, l'autre. Vous risquez de vous envoler dans une comparaison philosophique qui n'a pas de base linguistique. C'est pourquoi je vous demande de réfléchir en hébreu. Aharayut, ça vient de quel mot? Non.
Après.
Ça veut, voilà. Alors, Aharayut, ça veut dire de réfléchir à ce qui vient après. On est responsable des conséquences de quelque chose. C'est clair? Alors, Aharayut ne vient pas de Acher. Je dis, ça ressemble. Aharayut vient de Ahar ou Aharé. Ahar, c'est quand c'est immédiat. Aharé, c'est quand c'est après beaucoup de temps. Il y a certains midrashim qui expliquent aussi dans l'autre dimension. Ahar est tout de suite ou ahar après. Vous ne comprenez pas. Vaihi ahar advarim aele. Ou vaihi ahare advarim aele. Alors, aharayut, la responsabilité, c'est être capable de répondre. Ça, c'est le sens du mot français. Responsabilité vient de la racine latine qui veut dire répondre. Être capable de répondre des conséquences de ce que l'on a fait, ça veut dire ce qui arrive après. C'est clair? Mais ça concerne l'autre, celui qui est Acher. Est-ce que c'est clair? J'ai compris maintenant ma question. C'est-à-dire, si vous réfléchissez en français, vous risquez de tomber dans un piège. Que Harayus veut dire responsabilité, Acher veut dire l'autre, je suis responsable de l'autre. Réfléchissez en hébreu. Être responsable, ça veut dire pouvoir répondre aux conséquences de ce que l'on a fait. D'autre part, on apprend qu'en hébreu, l'autre est l'objet de la responsabilité. Mais ce n'est pas la relation directe, du point de vue linguistique. C'est clair? Bon, je referme la parenthèse. Et alors, cette année, vous n'avez pas appris que le conflit qu'il y a eu entre Caïn et Abel concernait aussi un problème de la relation entre l'homme et la femme. Ça, vous n'avez pas appris, en tout cas pas dans mon cours, vous avez tout appris d'autre part. Mais quoi qu'il en soit, on voit que dès que les patriarches reprennent ce problème, comment arriver à résoudre la relation à l'autre, on voit que s'entremêle le récit de la relation chez les patriarches entre le patriarche et sa femme. C'est clair? Et avec quel thème que le patriarche dit de sa femme qu'elle est sa sœur? Ce qui est apparemment, pour une culture occidentale, incompréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Or, c'est un thème qui revient trois fois dans le récit des patriarches. Ça veut dire que c'est un problème très important d'une mise à l'épreuve de la qualité morale, du progrès de la qualité morale dans la relation d'autrui à autrui. Pourquoi? Parce que dans la relation d'autrui à autrui, il y a deux dimensions différentes. Une dimension extérieure, lorsque l'un est extérieur à l'autre, c'est Caïn et Abel. Mais quand je dis Caïn et Abel, c'est Caïn et sa femme et Abel et sa femme. Et il y a une dimension intérieure de la relation à autrui, c'est l'homme et la femme et son mari. C'est clair la différence? Alors, chaque fois que l'on voit que la Torah intervient pour nous montrer que dans cette tentative de recherche de solution de l'équation de fraternité, il y a un progrès qui oblige une sélection d'identités des lignées qui n'ont pas réussi, cela vient après un épisode où le patriarche a dit de sa femme qu'elle est sa sœur. Chaque fois qu'il y a un progrès entre le mari et la femme, alors il y a un niveau de moralité supérieur qui apparaît et on sépare une lignée qui n'en est pas capable. Si, donc la première fois que ça arrive, c'est notre problème, la séparation entre Ishmaël et Isaac. Si vous étudiez d'un point de vue sociologique les mœurs dans la société islamique sur ce problème de la relation entre l'homme et la femme, vous verrez qu'elles sont très différentes que dans la société hébraïque. Et la relation entre l'homme d'Ishmaël et la femme d'Ishmaël est d'une nature différente que la relation entre l'homme d'Israël et la femme d'Israël. Mais ce n'est pas l'objet du cours en détail d'étudier ça sociologiquement. Peut-être si certains d'entre vous s'intéressent à cela, il y a des disciplines pour ça. Mais je vous le signale en passant, c'est aussi relié à la différence de la circoncision chez les musulmans et chez les juifs. Tout ça, je vous l'indique pour montrer le problème est très vaste. Mais il y a une question de différence d'identité morale entre Ishmaël et Yitzhak, qui fait que la relation de fraternité ne peut pas s'installer entre Ishmaël et Yitzhak. On va commencer à étudier ça aujourd'hui, mais j'en ai déjà parlé la dernière fois, avant Yom Ha'atzmaout. Et on s'aperçoit que si Sarah intervient pour les séparer les deux, c'est qu'entre-temps, il y a entre Abraham et Sarah un progrès dans la relation entre le mari et la femme. Voilà, ça commence à devenir un peu plus clair pour vous, c'est bien clair. Alors, vous me lirez ces trois épisodes, et je vous donne les références. D'abord, le chapitre 12, à partir du verset 10, chapitre 12, à partir du verset 10, c'est entre Abraham et Sarah, et le chapitre 20, c'est aussi entre Abraham et Sarah. Et d'autre part, entre Isaac et Rivka, le chapitre 26. Alors, lisez pour la semaine prochaine attentivement ces trois chapitres. Je vous avertis que vous allez avoir autre chose à lire pour le cours de la semaine prochaine. Alors, prenez le temps de lire tout cela. Bien entendu, ceux qui savent hébreu, lisez-le en hébreu et essayez de l'avoir en tête en hébreu. Les autres, lisez-le en français, mais en suivant sur l'hébreu. Parce que vous apercevrez, déjà maintenant vous savez un petit peu d'hébreu depuis le début de l'année, que les traductions que vous avez sont des traductions littéraires. Ça ne traduit pas exactement ce que les mots hébreux veulent dire. Vous avez dû remarquer ça souvent. Mais j'ai vu les traductions. C'est comme des échafaudages. Quand on construit une maison, il faut des échafaudages. Une fois que la maison est construite, il faut enlever les échafaudages. J'ai compris ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas oublier le français, mais essayez d'oublier les traductions françaises des textes hébreux. Vous verrez d'ailleurs par vous-même à quel point on ne va pas comprendre si on y prend les mots. Les Français sont pleins d'humour, alors quand ils ne comprennent pas, ils disent que c'est de l'hébreu, mais la vérité, c'est l'inverse. En tout cas, pour revenir au sujet, ce que nous allons étudier maintenant, c'est le texte que je vous ai demandé de lire lorsque Sarah intervient pour que Abraham sépare Ishmaël de Yitzhak. Et nous avons vu déjà la dernière fois qu'il y a un préalable à toute cette histoire. Comment comprendre qu'Ishmaël soit né ? Alors que la promesse à Abraham, c'était un enfant de Sarah. Ça, c'est ce que nous avons vu avant Yom HaShoah. Il y a eu un fléchissement de la patience chez Sarah. Sarah propose à Abraham de faire souche avec Agar pour pas que ce que lui représente disparaisse du monde, puisque elle, d'après elle, n'est pas encore capable, et en vérité, elle n'est pas encore au stade où elle peut enfanter celui qui doit être Isaac. Et elle n'aurait enfanté qu'une approximation d'Isaac. C'est d'ailleurs ce que Agar va réussir, une approximation d'Isaac. On va voir plus en détail aujourd'hui dans le texte. Et, avec une deuxième clause négative, Abraham accepte. Il y a à la fois une vertu de Sarah, qui est une vertu de générosité, de proposer à Abraham d'essayer de faire souche dans l'histoire humaine à travers l'Égypte, puisqu'il ne peut pas réussir à travers l'hébreu. Sarah, c'est sa femme hébreu, Agar sera sa femme égyptienne. C'est-à-dire ce que représente Abraham pourrait réussir à travers l'Égypte ou à travers Israël. Israël qui n'est pas encore nommé Israël, mais disons à travers l'identité hébraïque. Et on voit qu'il y a une rivalité qui va s'installer. Les valeurs d'Abraham à travers l'Égypte, c'est Ishmaël. Les valeurs d'Abraham à travers l'identité hébraïque, c'est Isaac. Vous voyez la différence ? Petite parenthèse, mais très importante, c'est le texte principal qui nous fait comprendre pourquoi le Shulchan Aruch va établir, après le Talmud, que le fils est le fils de la mère. Il y a beaucoup de raisons qu'on donne pourquoi le fils est le fils de la mère. Vous savez que dans le rite juif, on est juif par la mère, et Ashkenaz ou Sfarad par le père. Les tribus, c'est par le père. Mais l'identité juive, c'est par la mère. Vous savez cela. Eh bien, voilà la différence. Ce même homme, Abraham, avec Agar, donne Ishmaël, et avec Sarah, donne Isaac. Et Ishmaël et Isaac, ça n'a rien à voir. La preuve, c'est que ça se ressemble. Mais ce qui veut que se ressembler, ça n'a rien à voir. Ça, on a appris d'autre part. Vous rappelez de ça, ok ? Et alors, vous voyez que ce même homme, avec Agar, va engendrer l'islam, et avec Sarah, va finir par engendrer le judaïsme. Aucun rapport. Mais il y a rivalité entre les deux. Alors, à la racine de cette histoire, là où nous nous trouvons, il y a un affléchissement de la foi de patience chez Sarah, qu'on retrouve dans l'histoire du peuple juif à beaucoup d'époques d'assimilation, quand la communauté juive perd espoir de son propre espoir et passe le relais à une autre société. C'est un peu ce que Sarah a fait en passant le relais à Agar. Vous vous rappelez du verset ? Moi je ne peux pas, essaye avec lui. Ce que nous avons vu la dernière fois, vous ne me rappelez pas, mais vous me direz si on l'a vu un peu en détail, c'est ce qui est arrivé au moment de l'émancipation des Juifs en France. Les Juifs de France ont passé le relais à la société française. Les Juifs du Sanhédrin de Napoléon étaient persuadés que les valeurs bibliques réussiraient par la France. Ça, on a parlé un peu de ça. Okay, c'est le contrat que Napoléon leur a proposé et que les Juifs qui vivaient en France ont fini par accepter. Vous savez quel a été le résultat, mais une assimilation totale. Bon, je ne reviens pas dans les détails, mais on voit quelque chose d'analogue. C'est Sarah qui dit à Abraham, moi je ne peux plus, essaye avec elle. Alors, autant la Révolution française, ce n'était pas Agar, c'était Marianne, c'est pire, mais c'était la vie en même. Et seulement, l'Égypte va jouer un rôle extraordinaire dans l'histoire d'Israël, jusqu'au temps de la sortie de l'Égypte, et jusqu'à notre temps. Vous remarquez que c'est l'Égypte qui est le trait d'union du dialogue impossible entre le monde arabe et Israël. Et c'est pas fini. Non, mais en tout cas, on voit que cette histoire a commencé avec l'apparition d'une approximation de ce qu'on attend. C'est Ishmaël. Et alors, on pourrait se demander pourquoi Ishmaël est différent de Isaac. Est-ce que ce ne serait pas quelque chose lors du racisme de dire que parce qu'il est égyptien, il ne peut pas être juif ? Enfin, hébreu. Et la question se pose. D'autant plus que n'importe qui peut devenir hébreu. Il suffit qu'il le décide. C'est la seule identité humaine qui peut s'acquérir. Je voudrais que vous réfléchissiez à ça. On ne devient pas quelqu'un d'autre. Sauf juif, on peut devenir. J'ai jamais remarqué ça. Par exemple, un Allemand qui veut devenir français ne sera jamais français. Il sera citoyen français, mais il sera allemand citoyen français. Sa descendance, à la 10e génération peut-être, sera français d'origine allemande. Mais un homme ne change pas d'identité. Il peut changer de statut civil, de statut de citoyenneté. Vous avez compris que c'est ça, on en a parlé la dernière fois. On n'a pas le temps d'approfondir tout ça en détail, mais je vous fais confiance de réfléchir pour vous-même. D'ailleurs, c'est votre histoire. Quand on en a parlé à propos de ce que la communauté juive en France a accepté au temps de Napoléon, enfin au temps de la Constituante. Mais c'est Napoléon qui a posé le problème. Vous vous rappelez comment le problème s'est posé aux Juifs qui vivaient en France au moment de la Révolution française. Jusque-là, ils étaient une minorité nationale en France, avec leur propre religion. Et Napoléon leur a proposé le contrat suivant. À quelles conditions vous accepterez de faire partie de la nation française ? Et la condition, c'est lui qui leur a donné, à condition de quitter la nation juive. Et il leur a inventé une confession religieuse israélite à la manière de la confession religieuse catholique ou protestante de l'époque. Aujourd'hui, il faudrait ajouter musulmane. Mais je vous donne un exemple, puisque je parle des musulmans. Est-ce que vous croyez vraiment qu'un musulman qui prend la citoyenneté française cesse d'être arabe ? Demandez-lui, il vous répondra. Lui, c'est, eux, ce n'est pas des juifs. Vous comprenez ce que je vous dis ? Il y a énormément d'Algériens qui ont été rapatriés avec les pieds noirs. Je parle d'Algériens arabes. Les Harkis, je ne sais pas si vous avez entendu parler des Harkis, eh bien, ils sont devenus citoyens français, et allez leur raconter que leurs ancêtres étaient des Gaulois, vous allez voir avec quel regard perçant ils vont vous regarder. Vous avez compris que, eux au moins, ils sont normaux, ils s'activisent. Il n'y a que les Juifs qui qui ont une telle coquetterie d'identité qu'ils font semblant que plus ils sont bruns, plus leurs ancêtres étaient blonds. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors voilà, les Juifs qui vivaient en France, au temps de la Révolution française, ont accepté la citoyenneté de l'État français, et il y avait une sorte de contrat plus ou moins lucide. On va faire semblant d'être des nationaux français, comme les Français de France, et puis on va se définir de manière privée par une confession religieuse qu'on va appeler israélite, parce qu'on avait honte de s'appeler juif à l'époque. Vous voyez ce que je dis. Et bien vous voyez à quel point c'est analogue. Ça, nous l'avons vécu dans l'histoire, nous l'avons vécu 10 fois. Et à ce que la Torah nous raconte dans ce récit, où lorsque Sarah croit prendre conscience qu'elle est incapable de mériter la promesse d'un enfant à Abraham, avec beaucoup de générosité, elle dit comment ce que toi, tu es Abraham, reste dans le monde jusqu'à ce qu'une Sarah éventuelle réussisse. Fait un enfant à Agar. Et Agar, c'est qui? Vous vous rappelez que dit le Midrash de Agar? C'est la fille. C'est-à-dire la matrice de l'engendrement d'identité égyptienne. Et ne croyez pas que c'est une anecdote. C'est ce qui est arrivé. À partir de ce moment-là, Ishmaël s'est installé dans le monde et c'est l'islam. Et l'islam a pour souche l'identité de la culture égyptienne d'abord. Les Égyptiens ne sont pas des Arabes d'origine. Je ne sais pas si vous savez ça. Mais finalement, il y a 3 dimensions dans l'identité de l'islam. La première, c'est l'identité arabe. La deuxième, c'est l'identité égyptienne, etc. Et la troisième, c'est l'identité perse. Mais pour les termes de la tradition juive, c'est l'identité perse qui est dominante. Et ça se dévoile de notre temps où l'islam le plus dangereux, c'est l'islam de l'Iran. Beaucoup plus que l'islam de l'Arabie saoudite. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Et d'ailleurs, ils sont en lutte, les Iraniens, avec d'une part les Arabes et d'autre part les Égyptiens. Mais quoi qu'il en soit, tout ça a pour racine Ishmaël. Est-ce que c'est clair? Vous commencez à percevoir cela, que notre Créateur nous raconte l'histoire des patriarches, elle nous raconte l'histoire du monde à travers la dimension Israël. C'est-à-dire, ça se passe dans la réalité. Ce n'est pas des anecdotes du passé. Le Midrash donne comme principe, le plus avancé, vous allez le noter en hébreu, Kolma Sheira la Avot Siman Abanim. Tout ce qui est arrivé au père est un signe de ce qui arrive au fils. La différence, c'est que chez les pères, ça arrive à l'échelle individuelle, chez les fils, ça arrive à l'échelle d'une société. La société d'Israël a rejoué l'histoire d'Abraham jusqu'à la réussir, a rejoué l'histoire d'Isaac jusqu'à la réussir, celle de Jacob, et lorsqu'elle est réussie, elle reçoit le nom d'Israël. Et ce sont les mêmes thèmes d'identité dont nous avons à faire la preuve. Alors je reviens donc à notre récit, tu me poseras des questions à la fin du cours, si elle existe encore. C'est cette progression que l'on voit dans l'identité morale des patriarches, ça commence avec Abraham. On aurait dû arriver à ce moment de l'étude en janvier à peu près. Il nous reste très peu de temps jusqu'à la fin de l'année, donc je vais résumer tout cela. Mais au moins vous donner les grandes lignes. Alors voilà de quoi il s'agit. Je vais vous citer. Nous n'avons pas d'étudier sur texte ce problème du rapport entre le patriarche et son épouse, mais je vais vous citer un enseignement du Hafetz Chaim dans un darouche à propos de Pessah et qui a posé la question suivante, à travers laquelle il va résoudre notre problème. Vous savez qu'il y a une grande loi dans la Torah, il est interdit d'offrir des sacrifices en dehors du temple. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le temple a été détruit, on ne peut plus faire des sacrifices et toute la liturgie a changé en attendant que le temple soit reconstruit. Le véritable culte de la loi de Moïse, ce n'est pas la prière à la synagogue, ça c'est très tardif, c'est le culte des sacrifices. D'ailleurs, autant des sacrifices, il y avait aussi le rite de la prière. Mais à partir du moment où le temple a été détruit, comme les sacrifices ne pouvaient plus être offerts, alors on a changé la liturgie pour que la prière elle-même ait la même efficacité liturgique que les sacrifices. Ça, vous étudierez d'autre part. Et alors, il y a, semble-t-il, dès le début, une grande exception à cette loi. qu'on n'offre pas de sacrifice en dehors du temple. C'est la définition même de l'idolâtrie, offrir un sacrifice en dehors du temple. C'est que le premier sacrifice que la Torah a demandé à Israël à la sortie d'Égypte, le sacrifice de Pessah, se fait non seulement en dehors du temple, qui n'était pas encore construit, mais même pas en Eretz Israël, même pas à Jérusalem, se fait dans l'endroit le plus impur du monde, l'Égypte. Alors le Chafetz Chaim m'a posé la question suivante. Comment se fait-il que la Torah demande un acte de sainteté dans le monde extérieur, le plus extérieur à la sainteté? Vous avez compris la question? Bon. Et il répond de la manière suivante. Alors là, vous allez découvrir un thème qui est propre à l'enseignement du Rav Kook, qui est indiqué d'ailleurs depuis l'origine. Et le Rav Israël va s'en servir, le Rav Israël est antérieur au Rav Kook. Mais c'est surtout dans l'enseignement du Rav Kook que ça va se développer. C'est qu'il enseigne qu'il y a deux sortes de sainteté. La sainteté dévoilée, la sainteté extérieure et la sainteté cachée, la sainteté intérieure. Et on pourrait croire que la sainteté supérieure, c'est la sainteté intérieure, mais la Torah va dévoiler que la sainteté extérieure est plus importante que la sainteté intérieure. Et vous êtes formé à une culture qui dit l'inverse. Dans la culture occidentale, l'intériorisation semble avoir plus de valeur que l'extériorisation. Ça, c'est un problème de philosophie occidentale, et de ce côté, familiarisez-vous, oui, j'ai oublié le français, avec la catégorie de, je vous dire en hébreu, Kdushat Chutz et Kdushat Pnim. Kdushat Chutz, ça veut dire la sainteté qui est à l'extérieur, et Kdushat Pnim, la sainteté qui est à l'intérieur. Alors voilà quel est le principe. Je schématise beaucoup, mais vous avez toute la vie pour apprendre ces choses-là. Le principe, c'est que il y a une quantité de sainteté qui est proposée à la créature. Et toute la vie, c'est pour arriver à intégrer cette quantité de sainteté. Alors, la quantité de sainteté que j'ai déjà mérité d'intégrer, mais intérieure, ça signifie que celle qui est encore restée à l'extérieur est plus grande. Et je n'ai pas pu encore l'intégrer. Vous suivez ? Retenez bien ça. Vous avez remarqué qu'au Moyen-Âge, chez les peintres, lorsqu'ils veulent figurer un saint, ils mettent une auréole autour de la tête. Cette auréole représente cette aura de la quantité d'âme qui ne peut pas être incluse dans le corps. Alors, elle irradie autour. Nous sommes aveugles à ça. Il y a des gens qui savent voir. Mais en général, on ne voit pas que la quantité d'âme que le corps n'a pas encore réussi à savoir intégrer, et tout elle peut être loin d'ailleurs, mais elle n'est pas encore dedans, elle n'est pas encore prime, elle reste route. Eh bien, cette sainteté route, pour chacun, est plus grande que sa sainteté prime. Bien. Bon. Et alors, le Rav Etraïm, en se basant sur ce principe, dit il y a une sainteté prisonnière de l'impureté du monde extérieur, qu'il faut délivrer d'ailleurs, et est plus grande que la sainteté déjà intériorisée. Alors, comment il inverse le problème? On s'était étonné qu'on ait demandé un sacrifice en Égypte. Alors, le Chafetz Chaim va dévoiler, à travers d'ailleurs énormément de textes du récit de ce que faisaient les Hébreux en Égypte au temps de Joseph à Moïse, qu'il y avait une sainteté perdue dans l'Égypte. Les Hébreux étaient allés en Égypte pour la délivrer. Et cette sainteté cachée, qui était prisonnière, est plus importante que la sainteté déjà acquise. Donc, il y a une dimension de sainteté de l'extérieur, à laquelle on n'est pas du tout habitué dans la culture occidentale. C'est clair, okay ? Et à travers ce principe, le Rav Etraïm donne un exemple qui concerne notre problème. Il dit qu'il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour entre le mari et sa femme, qui est un amour qui est permis à l'intérieur et interdit à l'extérieur. Ça veut dire un mari et sa femme ont le droit de s'aimer dans la maison, mais pas dehors. Alors qu'il y a un autre amour, qui est l'amour entre le frère et la sœur, qui est permis dehors et interdit dans la maison. le frère et la sœur ont le droit de s'aimer dehors et pas dedans. Vous avez vu la différence. Et il se base sur des tas de versets de la Bible. Je vais vous donner un verset que vous trouverez dans Cantique des Cantiques. Et vous le chercherez d'ailleurs dans Cantique des Cantiques. Ça vous obligera de lire le Cantique des Cantiques. Ça vous arrive de lire le Cantique des Cantiques? Quand est-ce qu'on lit le Cantique des Cantiques? Chez les Sfaradim. Et chez les Ashkenazim? Très exact. Et alors, le verset dit ceci. Mi itencha keachli, yonek shedeini, emtsaacha bachus eshacha, gam lo yabuzuli. Je vous traduis. C'est le bien-aimé qui parle à la bien-aimée qui lui dit: qui fera de toi comme un frère pour moi? Non, c'est l'inverse, c'est elle qui parle à la lumière. Mi itencha keachli, emtsaacha bachus eshacha, je te rencontrerai dehors et je t'embrasserai. Et on ne me méprisera pas. Or, la relation entre la Shulamite et le roi Salomon, c'est la relation entre un époux et une épouse. Et qu'est-ce qu'elle demande? De construire aussi la relation d'amour extérieur comme le frère et la sœur. Suivez? C'est clair? Donc, alors retenez bien cette première référence. Et nous verrons après d'autres registres de parallèles dans toutes les valeurs. Il y a ces deux dimensions, la valeur extérieure et la valeur intérieure. Lorsque Dieu a créé le monde extérieur, eh bien, il a mis à l'extérieur quelque chose qui était à l'intérieur. Et donc, il y a une sainteté de l'intérieur qui s'est dévoilée à l'extérieur, mais elle est cachée. Elle est prisonnière des apparences. Et dans le monde de la filiation grecque, qui est un monde dualiste, on a séparé ces deux dimensions, intérieur et extérieur. C'est la raison pour laquelle l'occidental s'habitue à voir le profane à l'extérieur et le sacré à l'intérieur. Tandis que dans le monothéisme hébreu, il y a la sainteté et à l'intérieur et à l'extérieur. Je vous ouvrirai une petite parenthèse pour vous dire pourquoi je vous ai cité le Rav Kook. Parce que tout ceci s'est renouvelé quand nous sommes revenus en Eretz Israël. Les Juifs, pendant 2000 ans, se sont habitués à définir la sainteté dans l'opposition au monde extérieur. Le monde extérieur était goy, donc impur. Et par conséquent, la religiosité juive, plus que la piété, s'habituait à une vue négative du monde extérieur. La nature, c'était impur. Pourquoi? Parce que c'était goy. Ce n'est que revenu en Eretz Israël qu'on peut retrouver la sainteté naturelle parce qu'elle est juive. Je ne sais pas si c'est clair ce sujet. En Eretz Israël, les tomates sont des tomates saintes. Imaginez en Corse manger des tomates corses. Quel bracha on peut dire là-dessus? Tandis que la bracha qu'on dit sur les agraniot et kdoshot d'Eretz Israël, c'est les fruits d'Eretz Israël. C'est pas une blague. Le juif, de notre temps, commence un peu à se réconcilier avec le monde de la nature parce qu'il n'avait pas sa nature. Et sa sainteté était dans le refus du monde extérieur. D'ailleurs, beaucoup de juifs sont pris au piège de l'inertie de cette habitude, et à force de s'habituer à s'opposer au monde extérieur chez les goïms, ils continuent à s'opposer au monde extérieur chez les juifs. Vous avez remarqué ça? Donc tous les juifs qui refusent le monde de la nature juive. Et ils se prétendent monothéistes. D'où ça vient? Ça vient de ce que on a été contraint pour se préserver, de s'opposer au monde extérieur, c'est l'égoïsme. Alors on croit que c'est ça la sainteté, le suivant de la sainteté, et on continue à se conduire comme ça, même en Eretz Israël. Vous vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez pourquoi il y a des juifs pieux, habitués à la piété des ghettos, qui considèrent comme un blasphème d'avoir une fête nationale israélienne? Je ne sais pas si vous avez lu les journaux ce matin, où on vous raconte les bagarres chez les Haredim qui voulaient brûler les drapeaux d'Israël hier à Yom HaTzmaout. Vous ne connaissez pas ces choses-là. Ils continuent à se... je veux dire même plus, chez les Sfaradim un peu moins, parce qu'on a connu des temps de civilisation extérieure où on était en harmonie, surtout au Moyen-Âge d'ailleurs, je veux dire. Mais chez les Ashkenazim, par définition, la rue était goy et la rue, on ne s'en préoccupait pas. La rue, c'est là où il doit y avoir la boue, les papiers, la saleté, c'est gone. Hein. Et là, il y a des gens qui ont tendance, même dans la rue juive, à continuer comme ça. L'agent de police, goy. Alors on ruse avec l'agent de police, parce qu'il est goy. Mais voilà que maintenant il est juif, alors on continue à ruser quand même, ça c'est l'agent de police. Vous avez compris ce que je veux dire ? Une espèce d'habitude de 2000 ans qui est très difficile à réadapter. Lorsqu'on se réadapte à ça, on redevient naturel. Vous avez compris le problème ? Et on découvre d'ailleurs qu'en Israël, les agents de police jouent à être agents de police. Quand ils se prennent au sérieux, c'est qu'ils sont goy. C'est parce qu'on voit l'esprit. En tout cas, pour revenir au sujet, il y a à reconstruire entre l'époux et l'épouse aussi cette dimension de l'amour entre frères et sœurs. Alors, voilà comment est l'histoire de ce problème. Au début, au niveau du premier homme, jusqu'au stade animal, il n'y a que la relation des sexes. Zahar Nekeva, mâle femelle. Au niveau du premier homme, il y a la relation de reconnaissance de l'autre entre l'homme et la femme qui s'appelle Ish-Isha. L'expression Ish-Isha est réservée à l'identité humaine. Ça veut dire qu'au-delà de Zahar et Nekeva, il y a Ish et Isha. Et on s'aperçoit que les patriarches vont reprendre ce problème au stade supérieur. Le premier souci des patriarches, c'est de reprendre le problème là où Adam Harishon avait laissé. Adam Harishon avait laissé au niveau Ishisha, il faut le reprendre et aller jusqu'au niveau Ar. Ce n'est que lorsque c'est réussi qu'on s'aperçoit que cette histoire est close, cette relation intérieure d'altérité entre l'homme et la femme est réussie, et on s'aperçoit que Jacob peut naître puisque Isaac et Rivka ont déjà réussi. Voilà, vous avez compris le problème ? Donc, c'est un peu schématique, mais l'étape est suffisamment claire. Okay ? Comment et pourquoi ces deux récits s'entremêlent ? À chaque étape où le patriarche et sa femme réussissent à se connaître plus comme frères et sœurs, on s'aperçoit que la Torah nous déclenche une étape de sélection d'identité dans les différentes lignes. Parce que Abraham et Sarah se sont reconnus comme frères et sœurs, Lot est séparé d'Abraham. Parce que Abraham et Sarah se sont reconnus plus comme frères et sœurs, Ishmaël est séparé d'Isaac. Parce que Rivka et Sarah se sont reconnus comme frères et sœurs, à un niveau encore supérieur, à trois niveaux, vous verrez, Ésaü est séparé de Jacob. Mais sur ça, ça déclenche le progrès dans le niveau de moralité, dans la relation de fraternité elle-même. Je reprendrai peut-être ce thème à la fin de l'année. En vous montrant un autre niveau de cette distinction entre les valeurs de l'intérieur et les valeurs de l'extérieur. À propos de la Torah, on a aussi énormément de versets qui indiquent qu'il y a une Torah, disons une chokma intérieure cachée et une chokma extérieure dévoilée. Et la chokma intérieure cachée n'appartient qu'à Israël. Ce qui est le cachet de la Torah, le Nistar, alors que la Torah dévoilée peut être communiquée au Goyim. Et alors c'est très parallèle dans la relation avec la femme et la sœur. La relation entre Israël et sa Torah cachée, c'est la relation entre le mari et son épouse. La relation d'Israël avec sa Torah dévoilée, c'est la relation entre le frère et la sœur. Alors quand Abraham arrive en Égypte, je vais vous imaginer un peu la scène. Imaginez Abraham et Sarah, quel âge ils avaient quand ils arrivent en Égypte ? Qui s'en rappelle ? Hein ? Tu inventes ? D'où tu sors ça ? Non, non, encore, tu améliores. Abraham avait 100 ans et Sarah 90 ans. Alors imaginez de quoi il s'agit, à quel âge ils arrivent à la frontière égyptienne. Et alors, le texte est très clair. À ce moment-là, Abraham dit à Sarah, je vois que tu es belle. Quand il ne s'était jamais aperçu pendant 100 ans. Alors il s'agit de cette beauté-là, de la relation entre le frère et la sœur. Et alors il dit que tu es ma sœur. Alors il arrive au poste de douane, et le douanier égyptien demande, Vous avez quelque chose à déclarer ? Alors, Abraham, il dit quelque chose d'important à déclarer. Ma femme, c'est ma sœur. Et l'Égyptien n'a rien compris du tout. Elle dit, ah, c'est ma sœur ? Alors, on peut l'amener chez le pharaon, puisqu'elle est belle. Oui, et quel âge elle avait ? 90 ans et 800 ans. Alors, vous ne savez pas prendre le piège des traductions. C'est une épreuve extrêmement importante. Et après, d'ailleurs, quand le pharaon l'apprend à Abraham, en croyant qu'elle est sa sœur, soi-disant, Dieu s'est révélé au pharaon et il dit qu'est-ce que tu as fait ? Alors le pharaon répond, mais il m'a dit qu'elle est sa sœur. Il m'a dit qu'elle est sa sœur. Alors Abraham l'explique, elle est aussi ma sœur, mais ça ne peut pas comprendre. C'est-à-dire, à travers toute l'histoire de la civilisation, le patriarche avait un message à déclarer. La femme, c'est la sœur. Il a fallu des siècles, des millénaires qu'on arrive à comprendre ça. C'est clair ? Alors, le Chafetz Chaïm explique que c'est aussi la relation entre Israël et sa Torah. Israël, avec sa Torah, se balade dans le monde. Et on lui demande, c'est ta femme ou ta sœur ? Alors, si c'est ta femme, on va te tuer, on va te la prendre. Si c'est ta sœur, on va te la prendre quand même. Vous voyez que c'est la relation entre Israël et la Bible et les goïms. Les goïms ont pris la Bible d'Israël en assassinant la relation époux-épouse et en privilégiant la relation frère-sœur pour eux. Vous avez remarqué ça ? Vous voyez ces différents étages du problème. C'est cette histoire qui nous est racontée. Alors il y a une mise à l'épreuve dangereuse, vulnérable dans ces voyages d'Israël. Ils se heurtent à cette interrogation, c'est ta femme ou ta sœur ? Mais je reviens au sujet, tel, lorsque cette valeur se dévoile dans la conscience des patriarches, alors il y a progrès dans l'identité hébraïque. Un homme qui voit chez sa femme sa sœur est plus capable d'être frère du frère. Voilà la clé, si vous voulez, de la relation. Alors, précisément, dans l'islam, la relation entre l'homme et la femme, c'est la relation entre le maître et l'esclave, et c'est pourquoi il n'y a pas de relation entre frère et frère dans l'islam. Maintenant, j'espère que c'est en tout cas suffisamment clair pour que vous compreniez pourquoi c'est une préface à la scène que nous allons étudier où Sarah intervient pour séparer Isaac d'Ismaël. Quelle heure est-il ? Alors on va lire au moins le verset et puis on prendrait une afsaka. C'est 11h25, c'est ça ? 20. On va lire le verset et vous aurez une afsaka où on reprendra le midrash sur ce verset. Alors donnez-moi la page. Non. Chapitre. Kafel. Pasuk.
Tête.
Voilà. Alors, vous allez prendre dans le texte à partir du verset 8. À partir du verset 8. On va traduire trois versets. Alors, on apprend dans les versets précédents qu'en fin de compte, Isaac est né. Et entre-temps, Ishmaël était né. Alors, Isaac est né, et suivant la promesse qui avait été faite dans les chapitres précédents, Sarah va le nommer Yitzhak. Yitzhak, ça veut dire quoi en hébreu ? Il rira. Alors, verset 8. Vaïda Ayeled, et l'enfant grandit, c'est Isaac. Suivez ce texte ? Vaïgamel, Vaïgamal, et il fut sevré. Vaïaras Abraham, Mishtegadol, et Abraham fit un grand festin, Beyom, Igamel et Yitzhak, le jour où Isaac fut sevré. Le jour où un enfant est sevré, c'est le jour où il commence déjà à exister.